And I think that as we look at reconciliation,
je pense que dans l'optique de la réconciliation, il est vraiment important de faire preuve de bienveillance et de prendre conscience du fait que nous sommes des apprenants. Et ce n'est pas en suivant un seul cours que nous aurons compris et réglé la question de la réconciliation. C'est un processus continu qui nécessite de la pratique, car comme une langue, si vous ne la pratiquez pas, vous la perdrez.
Bienvenue au dossier d'AMC. Un balado sur les personnes, les défis et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. Tout est calme en studio. Un foin d'odeur tressée, du tabac émietté, une plume d'outarde et une offrande recueillie dans une poche rouge sont déposées sur une poterie artisanale autochtone. Une huile de cèdre embaume l'air. Ces objets ont servi à purifier l'espace avant la séance d'enregistrement. Jenna Hendricks-Mijour et Robert Beamish s'apprêtent à entamer leur discussion virtuelle avec Brenda Wills, qui est en mission à Singapour. L'épisode intitulé « Perspectives autochtones sur la réconciliation » présente le récit de trois employés issus des communautés autochtones. Ensemble, ils dévoilent leur parcours professionnel et évoquent leurs histoires personnelles. Au moyen de leur expérience en tant que membres du réseau des peuples autochtones du ministère, ils discutent des efforts de réconciliation pour les auditeurs d'ici et d'ailleurs. Les participants ont répondu aux questions dans la langue de leur choix.
Anne, bonjour. Bienvenue, chers amis, chers collègues, chers auditeurs. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cet épisode très spécial afin de discuter des perspectives autochtones sur la promotion de la réconciliation au sein d'Affaires mondiales Canada. Je m'appelle Jenna Hendricks-Mijour et j'animerai la discussion aujourd'hui. Je suis actuellement directrice adjointe des opérations du secteur de l'Afrique subsaharienne à Affaires mondiales Canada, également connu sous le nom d'AMC. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui deux collègues et amis autochtones. J'ai à mes côtés Robert Beamish, qui est conseiller en politique au sein de l'équipe de transformation d'AMC, mais aussi coprésident du Réseau des peuples autochtones au sein du ministère. Également avec nous, notre collègue Brenda Wills, qui est conseillère et déléguée commerciale principale au Haut-Commissariat du Canada à Singapour. Brenda est aussi une membre active du Réseau des peuples autochtones, tout comme moi. Je suis tellement ravie d'avoir l'occasion d'être ici avec vous deux, d'entendre vos points de vue, vos perspectives et vos réflexions, et de pouvoir faire part de nos expériences respectives aux auditeurs et nos collègues situés au Canada et dans le monde entier. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien sûr que nous prenions un moment pour reconnaître que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg. Nous profitons de ce moment pour rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont ici, qui ont toujours été ici et qui sont encore ici aujourd'hui. J'invite également tous nos collègues, les auditeurs, non seulement à réfléchir à la terre sur laquelle vous vivez, mais également à découvrir de façon active son histoire jusqu'à aujourd'hui. Je suis descendant d'un peuple fier et noble et membre de la Première Nation Matachewan, qui fait partie du Traité 9 et située dans le nord de l'Ontario. J'ai rejoint la fonction publique du Canada en 2008 et je suis également très fière d'être membre du Service extérieur du Canada. J'ai travaillé en tant qu'agente de développement international et analyste principale dans le domaine de l'éducation. J'ai été affectée à l'étranger au Commissariat du Canada à la Barbade et plus récemment, j'ai travaillé au secrétariat de lutte contre le racisme au sein d'AMC. Et maintenant, Robert, j'aimerais me tourner vers toi pour que tu te présentes.
Thank you very much, Jenna.
Merci beaucoup, Jenna. Mon nom spirituel est Ozawa Makwa, ce qui signifie « ours brun » en Ojibwe. Et les enseignements de l'ours me guident dans une grande partie de ce que je fais. Dans un grand nombre de ces enseignements, l'ours est le protecteur, mais l'ours est aussi celui que l'on recherche pour apprendre la médecine. L'ours est aussi un guérisseur, et je garde ces deux choses à l'esprit lorsque nous interagissons avec le ministère et lorsque nous vivons notre vie à la fois en tant que fonctionnaire et en tant que personne autochtone au sein d'Affaires mondiales Canada. mais aussi lorsque je mets en avant les facteurs qui se recoupent dans mon identité. Ma mère, qui a immigré de Jamaïque, et mon père, qui est algonquin, métis et irlandais, sont à l'origine de ces facteurs. Je peux donc intégrer ces facteurs dans ce que je fais ici au ministère, dans ma façon de vivre et dans l'espace que nous avons créé au sein du réseau des peuples autochtones. Je vous remercie donc toutes les deux d'avoir occupé cet espace et de continuer à le faire. Miigwech.
Merci beaucoup, Robert. Ton histoire est vraiment passionnante, tout comme la signification du nom que tu as reçu. Je nous vois ici aujourd'hui et je repense à la première fois qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans. Et je tiens tellement à te remercier pour ton témoignage. Et je passe maintenant la parole à Brenda.
Thank you, Jenna, for hosting.
Merci, Jenna, d'animer cette discussion et de m'avoir invitée à y participer. Je suis une métisse de la Rivière-Rouge, originaire du sud-est du Manitoba, mais j'ai également vécu dans le nord du Manitoba pendant mon enfance et à Winnipeg pendant mes études à l'Université du Manitoba. J'aime donc dire que je suis originaire du Manitoba et que je suis actuellement loin de chez moi, à Singapour, où je travaille en tant que déléguée commerciale. J'ai rejoint le service extérieur en 2004 et j'aimerais vous parler un peu de ce qu'a été mon premier déménagement à Ottawa, car la différence démographique m'avait vraiment frappée. Pour être plus précise, je n'avais pas vu beaucoup d'Autochtones. Les Autochtones représentent environ 5 % de la population canadienne. Au Manitoba, ce chiffre est de 18 %. Et à Winnipeg, il se situe entre 12 et 12,5 %. En revanche, dans la région d'Ottawa-Gatineau, la population autochtone est de 3 %. Je comprends pourquoi la ville ne m'a pas semblé si familière lorsque je suis arrivée à Ottawa en tant que jeune agente du service extérieur. Je ne me souviens pas non plus d'avoir rencontré un autre collègue autochtone au cours des 16 premières années de ma carrière. Mon premier souvenir remonte à 2020. Année durant laquelle j'ai rejoint le réseau des peuples autochtones. Jusqu'à présent, j'ai eu une carrière intéressante dont je suis très fière, mais je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de suivre une telle carrière si mon père n'avait pas accepté une affectation à l'étranger pour le compte de la Compagnie d'électricité du Manitoba. Je n'avais tout simplement pas été exposée à cette possibilité lorsque j'étais au Manitoba jusqu'à ce moment-là. Pour souligner l'importance des modèles, c'est vraiment à la suite d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Irlande au Lesotho, en Afrique, où nous vivions, que j'ai eu un déclic. Je me suis dit qu'il avait le travail le plus incroyable qu'il soit, et cela m'a incité à me renseigner sur la manière de rejoindre le service extérieur. Si cette rencontre n'avait pas eu lieu, je ne serais sans doute pas ici aujourd'hui. J'ai eu le privilège de représenter le Canada dans le cadre d'affectation dans 5 pays jusqu'à présent. Les États-Unis, le Chili, la Colombie, le Mexique et maintenant Singapour. J'ai également occupé plusieurs postes intéressants à l'administration centrale d'affaires mondiales Canada, notamment celui de chef de cabinet du délégué commercial en chef du Canada et 2 postes dans le domaine de la politique commerciale.
Merci beaucoup, Brenda. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à la cérémonie organisée sur la colline du Parlement à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, a pris la parole et j'ai retenu plusieurs de ses propos sur la réconciliation. Et j'aimerais qu'on en évoque ici avant de poursuivre notre discussion.
La réconciliation, c'est l'espoir. L'espoir que nous bâtissons ensemble un avenir exempt de racisme, de préjudice, de préjugés, d'exclusion, de violence et d'injustice.
Ce que j'ai retenu de ses propos ce jour-là, c'est que la réconciliation est une question très complexe. La réconciliation concerne également la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, la manière dont nous nous respectons et dans la manière dont nous luttons contre le racisme. Cela signifie l'égalité dans le pays pour tous, en particulier pour les peuples autochtones qui ont souffert de façon qui ne peut être mesurée, car ils n'ont pas reçu les types de services que nous considérons comme acquis dans d'autres parties du pays. Et puis, la réconciliation, c'est également l'espoir.
Pour Jenna, Robert et Brenda, le Réseau des peuples autochtones d'Affaires mondiales Canada représente un esprit de communauté. C'est un espace où c'est possible d'échanger ses points de vue sur la question de réconciliation. Tout en expliquant les changements, les défis et les débouchés auxquels ils sont exposés comme employés autochtones.
Quand j'ai commencé à AMC, j'ai cherché une opportunité de connecter avec les autres employés autochtones, mais c'était vraiment difficile. Le réseau était engagé avec beaucoup d'initiatives corporatives, mais il n'y a pas de temps pour les employés de connecter, de rencontrer, de partager la culture, d'avoir une communauté entre eux. Et j'ai vu ça comme ma but pour le réseau de peuples autochtones. Et j'ai partagé cette but et vision avec l'autre co-président, Rebecca Deacher. Et on a eu un défi d'avoir un équilibre entre nos priorités corporatives et notre but d'avoir un espace pour nous-mêmes, juste être là et sans une expectation de faire une consultation ou de donner des avis pour la reconnaissance des terres, mais juste d'être. Il y a beaucoup de défis, mais aussi d'opportunités. Et d'être engagé avec ces opportunités et ces défis avec les employés autochtones et non autochtones. Et ça, c'est ma vision pour le réseau et de partager la connaissance pour tout le ministère d'être engagé pour la réconciliation.
Merci beaucoup, Robert. Je l'ai également, Brenda, te demandé également si tu voulais partager un peu de ton expérience avec le réseau au cours des dernières années.
Bon travail. Merci beaucoup, Robert et Rebecca. Le réseau s'est également développé de manière significative au cours des dernières années, en grande partie grâce à leur leadership, à leur charisme et à leur dévouement. Je suis très fière d'être membre du réseau. Il y a un fort sentiment d'appartenance à la communauté, ce qui est vraiment bénéfique pour nous tous et toutes. Il aide les employés autochtones à nouer des liens, à ressentir un plus grand sentiment d'appartenance, à s'orienter dans le ministère et de compartir les conseils et à s'épanouir professionnellement. Et à mesure que la communauté se développe, davantage de voix contribuent aux idées et aux suggestions du réseau à l'intention de la haute direction, ce qui est bien sûr très bénéfique pour nos efforts de réconciliation collective.
Le Réseau des peuples autochtones, que nous appelons aussi le RPA, est une partie prenante essentielle du ministère. Le RPA est également un contributeur de premier plan dans la promotion de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action d'AMC sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, Robert, en tant que co-président du RPA, j'aimerais que tu nous parles un peu plus du plan d'action du ministère. Par exemple, quels sont les principaux objectifs du plan? Quels sont les faits saillants ou les progrès réalisés en matière de réconciliation que tu considères importants? Et à l'heure actuelle, quels sont les défis, les possibilités que tu vois pour le ministère?
J'aime vraiment cette question, Jenna. Le plan d'action d'Affaires mondiales Canada sur la réconciliation avec les peuples autochtones comporte 6 objectifs. Ainsi, à travers ces 6 objectifs, il consiste à examiner, selon moi, la façon dont nous menons nos activités, la culture que nous avons ici à Affaires mondiales Canada, mais aussi ce que nous faisons. Il consiste donc à examiner nos programmes de développement, nos programmes commerciaux, ainsi que le contenu et les méthodes de nos activités en matière de politique commerciale. Ces domaines sont donc concernés par le plan d'action. Cela dit, je consacre une grande partie de mon temps aux deux premiers objectifs. Le premier objectif est donc de faire l'affaire mondiale Canada un espace inclusif et un espace de soutien pour les Autochtones. Il s'agit là d'une entreprise de grande envergure, car je pense qu'il s'agit également d'une occasion incroyable. Dans le cadre de cet objectif, les mesures qui sont définies concernent principalement la représentation, par exemple, avoir une représentation à tous les niveaux au sein du ministère, avoir des Autochtones présents et actifs au ministère. Quand j'y réfléchis, j'y pense également qu'il est plus important d'avoir une personne autochtone présente que d'avoir un espace sûr pour les peuples autochtones. Je pense que certains des facteurs qui contribuent à rendre cet espace plus sûr pour les peuples autochtones sont le fait de pouvoir s'auto-identifier librement et non le fait d'avoir des attentes en matière d'apprentissage, ou bien le fait que nous ayons désormais une personne en mesure de parler de nos reconnaissances territoriales au début des réunions. Mais plutôt le fait que leur point de vue et leur vision du monde soient respectés et compris. Alors, comment on crée un espace sûr pour les peuples autochtones dans ce contexte? Il y a des mesures que le ministère a mises en place qui ont trait à la représentation, à la promotion de la réconciliation à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est fait par les chefs d'équipe ou par les employés qui sont autochtones, mais c'est fait à tous les niveaux de direction à travers le ministère. Cela comprend aussi ce que nous pouvons faire en tant qu'individus pour avoir cette connaissance nous-mêmes afin que, lorsque nous interagissons avec des Autochtones, nous allions au-delà des tropes ou des stéréotypes et que nous puissions avoir une conversation significative qui reflète les expériences et que nous puissions aller de l'avant en faisant preuve de curiosité et de compréhension. Cela demande un certain effort de notre part en tant qu'individu. Et je pense que cela nous emmène au deuxième objectif qui est vraiment important pour moi, celui d'accroître la connaissance et la compréhension des droits, de l'histoire, du patrimoine, des cultures et des diverses perspectives des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que l'importance de faire progresser la réconciliation. Je pense que nous savons que la réconciliation est importante, mais comment expliquer pourquoi? Est-ce que c'est seulement parce qu'il y a eu des atrocités? Est-ce que seulement parce qu'il y a eu un génocide culturel? Comment en mesurer l'importance? Pourquoi est-ce si important? Je pense que si les gens ne comprennent pas cela et ne l'intériorisent pas, cet espace est aussi l'endroit pour poser des questions, parce que si vous ne comprenez pas quelque chose et que vous ne pouvez pas poser cette question, alors vous ne passerez jamais à l'étape suivante qui consiste à vraiment intérioriser cet élément et à réaliser que cet élément est important au-delà des événements dramatiques qui se sont produits. Mais c'est aussi notre façon d'aller de l'avant. Ce sont donc les deux objectifs qui me parlent le plus, car je pense qu'ils influencent tout le reste.
Il y a tant d'exemples d'initiatives qui se déroulent au sein du ministère, et j'aimerais en mentionner une brièvement, une qui contribue à soutenir et à faire progresser la réconciliation, qui nous tient également à cœur, ou qui me tient à cœur, même si j'en ai pas fait tout à fait partie. Il s'agit du programme d'expérience professionnelle pour les Autochtones, le PEPA, qui a été créé à l'initiative de feu l'ancienne ambassadrice Deborah Chatsis, une membre des Premières Nations qui nous a malheureusement quittés. Nous savons que son identité autochtone en tant qu'ambassadrice du Canada au Guatemala s'est clairement traduite dans son travail, ses perspectives et sa façon de travailler, c'est-à-dire de réaliser les activités de notre ministère. Ainsi, comme je l'ai dit à propos de Deborah Chattis, cela souligne également l'importance de la représentation, ou plutôt la raison pour laquelle elle est importante. Brenda, aimerais-tu nous faire part de tes réflexions à ce sujet?
Je pense qu'il est important pour nous de continuer à essayer d'accueillir un plus grand nombre d'employés autochtones au ministère et d'aider les employés autochtones à gravir les échelons grâce à la formation, au mentorat et au parrainage. Le programme pilote de parrainage des sous-ministres en est un excellent exemple. C'est un programme vraiment unique qui a été élaboré par Affaires mondiales Canada. Je suis donc très fière de faire partie de la première cohorte. Et comme nous étions un certain nombre de personnes autochtones, je suis impatiente de voir cette initiative être étendue à d'autres ministères. Il suffit de regarder ce qui s'est passé récemment au Manitoba avec le nouveau premier ministre, le premier ministre issu des Premières Nations. Cela a vraiment eu des répercussions et suscité de l'enthousiasme, en particulier chez les jeunes autochtones. Maintenant, les gens ont quelqu'un qu'ils peuvent admirer et ils peuvent dire « Wow! » Cette personne a atteint le plus haut échelon du gouvernement de la province.
Merci beaucoup, Brenda, de nous avoir fait part de tes réflexions et de ton expérience. Tu as raison, le programme pilote de parrainage des sous-ministres était une initiative clé dans le cadre de la stratégie de lutte contre le racisme d'Affaires mondiales Canada, qui a été lancé en 2021, soit la même année que le plan d'action sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Bien que la lutte contre le racisme et la réconciliation soient des expériences et des objectifs distincts, d'une certaine manière, ils se complètent certainement dans ce que nous essayons de faire pour rendre le ministère encore plus équitable, inclusif et sécuritaire pour tous les employés autochtones et les peuples autochtones, en général dans le cadre du travail que nous effectuons.
Selon Brenda, les occasions d'apprentissage et les formations sont des éléments très importants qui contribuent à faire avancer la réconciliation. Elle propose d'ailleurs quelques idées qui s'offrent aux employés du ministère.
Une suggestion pour enrichir la formation actuelle serait d'inclure davantage des perspectives diverses. Par exemple, j'ai suivi récemment un cours très utile et instructif, mais l'animatrice a clairement indiqué qu'elle ne parlait que du point de vue des Premières Nations. Ne serait-il pas formidable d'inclure également des animateurs métis et inuits? J'imagine que les collègues sont curieux de connaître les différentes perspectives, cultures, histoires et traditions des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Je crois que les nouveaux agents de services extérieurs sont tenus, dans le cadre de leur intégration, de suivre un cours sur la réconciliation avec les peuples autochtones et le rôle d'Affaires mondiales Canada. Il serait bon que d'autres cours et formations soient exigés pour aider à développer une compréhension encore plus profonde, afin que notre service extérieur soit bien préparé à parler des intérêts des peuples autochtones du Canada et à les faire progresser.
Il est intéressant d'entendre les perspectives autochtones de nos invités. Avant de conclure cet épisode, Jenna nous invite à réfléchir aux façons d'accroître notre connaissance et notre compréhension des peuples autochtones au sein de nos milieux professionnels et personnels. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à lire le plan d'action d'Affaires mondiales Canada sur la réconciliation avec les peuples autochtones, disponible sur le site web international.gc.ca.
Je voudrais conclure avec quelques mots d'encouragement, mais aussi avec une analogie qui m'a vraiment aidé et qui a aidé d'autres personnes à comprendre la réconciliation et les étapes nécessaires pour s'engager de manière significative. Je pense qu'on peut comparer la réconciliation et son apprentissage à l'apprentissage de nouvelles langues. Je pense que dans l'optique de la réconciliation, il est vraiment important de faire preuve de bienveillance et de prendre conscience du fait que nous sommes des apprenants et qu'il ne s'agit pas de suivre un seul cours pour avoir réglé et compris la question de la réconciliation. C'est un processus continu qui nécessite de la pratique, car, comme pour une langue, si vous ne la pratiquez pas, vous la perdrez. Je pense que c'est l'élément sur lequel j'aimerais encourager les gens. Voir cette nouvelle langue et ce parcours d'apprentissage comme quelque chose que nous entreprenons en tant qu'apprenants tout au long de notre vie, et non comme quelque chose que nous faisons juste une fois et qui reste acquis. Cela va prendre du temps, mais nous sommes tous là pour ça.
Robert, j'aime beaucoup cette analogie. L'ancien sénateur Murray Sinclair m'a inspiré en disant ce qui suit à ceux qui ne savent pas par où commencer dans leur parcours d'apprentissage. Au fur et à mesure que vous comprenez et apprenez davantage, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter et à la manière dont vous pouvez le faire. Il n'est pas nécessaire de s'attaquer à tous les problèmes ou d'essayer d'apporter sa contribution de toutes les manières possibles. Trouvez un domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise ou êtes le plus à l'aise et trouvez un moyen d'apporter votre contribution et de vous impliquer. Et n'ayez pas peur de vous exprimer ou de mal faire les choses. L'expression de votre intérêt et le fait que vous essayez d'agir seront appréciés.
Absolument, je suis d'accord avec toi. Et je dois dire que j'aime tellement cette analogie, Robert. Tout cela me donne beaucoup d'espoir. La discussion qu'on a aujourd'hui et cet espace sont possibles parce qu'il y a réellement un engagement et une reconnaissance de la nécessité d'avancer sur la voie de la réconciliation au sein d'Affaires mondiales Canada. Alors, à nos auditeurs, partagez, emportez ces informations avec vous et participez à la réconciliation de la manière qui vous semble la plus appropriée. Quel que soit le point où vous en êtes dans votre parcours, même si pour l'instant, ça veut dire aller pour la première fois à un powwow l'été prochain, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et de nous avoir fait part et de m'avoir fait part de vos témoignages et de vos réflexions. Je sais qu'il y a tellement de choses dont on aurait pu parler davantage et approfondir avec toutes nos expériences de vie ainsi que nos expériences de travail au sein d'Affaires mondiales Canada. Je sais que nous pourrions certainement continuer à discuter de ce sujet pendant des heures, peut-être avec un pain bannick et du thé et une confiture de bleuet. Alors à tous les membres des Premières Nations, aux Métis, aux Inuits et aux personnes d'identité mixte qui nous écoutent, sachez que nous sentons votre présence, nous savons que vous êtes avec nous et nous continuerons à être là pour vous. Miigwech, tout le monde, Bamapi.
L'utilisation d'extraits sonores de cet épisode est une gracieuseté de APTN. Les dossiers d'AMC sont une production d'Affaires mondiales Canada. Toutes les opinions exprimées dans ce balado sont celles des personnes concernées et pas nécessairement celles de leurs employeurs ou d'Affaires mondiales Canada. Pour plus d'informations sur le balado d'Affaires mondiales Canada, visitez le site web www.international.gc.ca. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado et merci d'avoir écouté les dossiers d'AMC.